Le L Québec présente la mini-série Corps à corps en collaboration avec la Clinique K. Nos animatrices et invitées plongent tête première dans l'univers de la chirurgie esthétique pour en défaire les tabous et préjugés. Cette semaine, on décrypte avec humour les plus grands préjugés entourant la chirurgie esthétique en compagnie de Varda Étienne, Laurie Dupont et du Dr Carl Schwartz.
Bonjour, mon nom est Laurie Dupont, chef de contenu culture et société du L Québec. Aujourd'hui, on détabouise la chirurgie esthétique avec Dr Carl Schwartz, qui est chirurgien esthétique et propriétaire de la Clinique K. Et a-t-elle encore besoin de présentation? L'animatrice, la chroniqueuse, la délicieuse Varda Étienne, bonjour.
Bonjour Laurie, bonjour Dr Schwartz.
Est-ce que c'est une première rencontre?
Oui!
Avec grand plaisir.
Parce génial. Que
j'ai beaucoup entendu parler du Dr Schwartz dans le passé. Il a opéré quelques amis. Je suis sa future cliente, voilà.
D'accord. Maintenant, c'est dit, on
voilà,
l'a dit.
C'est dit.
De but en blanc, j'ai le goût de vous demander qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes sont encore aux prises avec un tabou entourant les chirurgies esthétiques. D'après vous, pourquoi les gens sont gênés d'en parler?
Mais moi, je pense, si vous me permettez,
donc, ouais,
étant une femme qui a eu recours à la chirurgie plastique et j'ai des amis aussi qui ont eu recours, il y a encore beaucoup de jugements hein, face aux femmes. Envers les femmes, pardon. Et ce qui est encore plus étonnant et plus bouleversant pour moi, c'est que ce sont les commentaires émis par d'autres femmes qui, je pense, en quelque part, rêvent de se faire opérer, mais qui ont peur du jugement. Donc, je pense que c'est important d'en parler ouvertement, de ne pas éprouver de la gêne parce qu'on s'est fait opérer, puis surtout respecter le choix de chacun, que ce soit des hommes ou des femmes, ou peu importe le genre. C'est un choix personnel qui ne mérite pas de jugement.
Que vous remarquez des changements au travers les années?
Oui, je pense que vraiment, les jours que ça soit vraiment un tabou, moi, je pense que l'embonion s'est terminé. Le jugement d'une femme à l'autre, je ne peux pas y parler trop, mais je le vois de temps en temps, puis c'est juste pas juste la chirurgie plastique. Comment on s'habille, qu'est-ce qu'on met comme maquillage. Mais en termes de chirurgie plastique, je pense que les dernières 10 années, j'ai vraiment vu un gros changement par rapport... d'avoir simplement moins de jugement. Puis c'est dû au fait qu'on est comme passé un tipping point de nombre de personnes, de femmes qui ont eu chirurgie plastique. Puis on en parle beaucoup plus. Puis on voit dans les réseaux sociaux maintenant que c'est une plateforme où les femmes peuvent partager, pas juste verbalement, mais en faisant des vidéos de leur journey, de leur chirurgie. On a un accès qu'on n'avait pas. Avant, on peut voir tout ce qui se passe, la récupération, la chirurgie, puis les résultats aussi, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, les nouvelles techniques, sont vraiment partagés beaucoup plus vite qu'avant.
Mais en même temps, je suis d'accord avec tes propos de Dr. Schwartz, mais en même temps, je pense qu'il y a un côté générationnel.
Tout à fait.
C'est-à-dire que les jeunes femmes qui sont âgées de 18 à 30 ans, qui ont recours à la chirurgie plastique, qui, elles, veulent s'exhiber sur les réseaux sociaux et avec, elles ont le droit de le faire. Pardon. Mais une femme de mon âge qui a 50 ans, je ressens, moi, les jugements. Peut-être moins parce que j'en parle ouvertement et avec une liberté, une désinvolture, mais je suis... Et Dr. Schwartz vient de donner l'exemple des tenues vestimentaires. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Lors de mon passage à Tout le monde en parle, j'ai eu des commentaires de « sa robe est trop serrée ». Les gens ont fait des commentaires sur mes sourcils. J'ai eu aussi des commentaires parce que j'utilise des agents de comblement. Et naturellement, je ne réponds pas parce qu'à mon âge, il y a longtemps que je m'en fous. Mais en même temps... Je ne cacherai pas que je ne comprends pas le besoin de ces gens-là d'aller derrière un clavier et de dénoncer ça parce que, je reviens à ce que je disais au départ, c'est un choix personnel qui nous appartient. Et certaines femmes, la chirurgie plastique, dont moi, j'en fais partie de ces femmes-là, a littéralement changé ma vie pour le mieux.
Oui, mais c'est ça, j'ai le goût de te demander, qu'est-ce qui t'a amené là? Quel était ton rapport avec tes seins au premier abord, avant d'avoir la première chirurgie?
Ben, j'avais deux raisins secs. Je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, je suis une ancienne danseuse de ballet, je suis une ancienne ballerine. J'avais deux raisins secs.
D'accord.
Ça, c'est de un. Donc, ça, c'est la première fois lorsque je me suis fait opérer. Et
à quel âge?
J'avais 24 ans. Donc, il faut pas... Il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier. Il y a une question de stature. Je mesure 5 pieds 9 et demi. Donc, et je suis une femme noire qui a des courbes, donc c'est important pour moi que tout soit proportionnel. Et deux raisins secs, quand tu es une femme noire qui a des hanches ou qui a des seins, je trouvais que c'était pas proportionnel. Ensuite, j'ai eu des enfants. 3 enfants, je me suis ramassée avec 2 queues de castor.
Est-ce que c'est le genre, à certains détails près, est-ce que c'est le genre de discours que vous entendez en clinique? Est-ce que les femmes ont souvent un rapport amour-haine avec leur sein, avec leur poitrine?
Oui, mais ça dépend vraiment de la patiente. Tout le monde est complètement différent en termes de leur raison pour subir une chirurgie des seins, mais souvent, c'est de ne pas être confortable dans leur peau, que ce soit depuis la puberté, qu'ils n'ont pas développé des seins, ou des changements qu'on voit, une perte de poids importante, ou une coupe de grossesse, ou une manque de volume, le sein est plus vide, puis ils veulent juste avoir ce qu'ils avaient avant, ou l'âge aussi, la ménopause, où on peut prendre...
Moi,
je coche toutes les cases que Dr. Schwartz vient de dire. Toutes les cases. Alors, grossesse, ménopause, excusez-moi, docteur.
Il y a beaucoup de raisons, mais c'est vraiment personnel.
Si... on image pour les gens qui n'ont jamais vécu ça et qui seraient intéressés. Comment ça se passe une première rencontre, une première consultation en clinique?
Alors, la première consulte, on commence avec la réceptionniste qui greet la patiente. Puis, il y a un formulaire à remplir, vraiment plus de l'information médicale s'ils sont en santé. Après ça, il y a la comme pré-consulte avec l'infirmière où ils vont parler un petit peu de leur santé, puis un petit peu la raison pour laquelle ils sont à la clinique. Si c'est, par exemple, pour une augmentation mammaire, ils vont parler un petit peu de la technique, l'attente de les patientes, qu'est-ce qu'elles veulent comme résultat final. Puis, ils vont faire le sizing.
Oui, c'est ça.
Parce que souvent, on va faire une augmentation mammaire, il faut savoir quelle grandeur la patiente veut. Puis, on commence avec une brassière spéciale, puis des petites prothèses minces pour voir quel volume ou le range de volume où la patiente est confortable.
Je suis curieuse. Est-ce que vous avez quand même un apport pour dire, mettons, je considère que c'est trop ou je considère... Est-ce que vous avez quand même un jugement de chirurgien à donner à certains égards?
Oui, puis c'est pas juste les attentes de la patiente.
Oui.
C'est aussi ce qui est sécuritaire.
Alors, pour moi, c'est une bonne nouvelle à entendre.
Oui, parce qu'il y a un range de prothèses que je vais recommander où, à mon avis, la patiente est en bonne sécurité en termes d'avoir un résultat long terme qui dure, qui ne va pas causer des effets négatifs au sein. Alors, après la pré-consulte avec l'infirmière, je vois la patiente, on en parle un petit peu des attentes, je les examine, je prends toutes sortes de mesures. Puis après ça, je détermine le range.
Okay.
Puis à la fin, ce que les patientes aiment beaucoup, c'est la caméra 3D. C'est un système qui s'appelle le Vectra, où on prend une photo 3D, puis on peut essayer différentes prothèses, puis la patiente peut voir ça a l'air à quoi sur leur propre corps. Alors vraiment intéressant. Puis ça c'est comme le pas final pour choisir la prothèse.
Moi, la raison pour laquelle je voulais que ça soit toi qui sois ici aujourd'hui, c'est que tu as eu plus qu'une chirurgie.
Oui, trois.
Tu es retournée sous le bistouri trois fois et on me dit à l'oreille, quatre fois, ça s'en viendrait bientôt.
Le docteur Schwartz vient me dire, c'est quatre semaines d'attente, donc c'est clair que je suis opérée et satisfaite avant la fin de l'été. Merci, bonsoir.
Est-ce que je peux te demander ce qui t'insatisfait présentement de ta poitrine?
C'est-à-dire tout ce que Dr. Schwartz a énoncé. Par exemple, il y a une question d'âge. Je suis en pleine période de ménopause. Il y a eu trois grossesses. J'ai perdu du poids. Par moments aussi, il y a eu des gains de poids, des pertes de poids. Mais au départ, je n'ai jamais aimé mes seins. Je n'ai jamais aimé la forme de mes seins ni la grosseur du bonnet. Je n'ai jamais été satisfaite. Et parce que je suis dans un métier de l'image. Puis, tu sais, moi, Laurie, tu me connais. Moi, j'assume complètement tout ce que je fais. Je ne me justifie jamais de mes choix. Pour moi, c'est important à ce stade-ci pour être complètement satisfaite. Et j'accepte de vieillir. J'ai aucun problème. J'ai 50 ans à assumer. Black don't crack, I'm happy. Mais ici, je ne suis pas heureuse. Et je ne le serai pas tant et sous l'autant que je ne vais pas repasser sous le bistouri.
Est-ce que c'est quelque chose... Parce que, tu sais, on s'entend, on pense, augmentation mammaire, c'est bon. Mais non, un bon moment donné, l'implant mammaire vient au bout de sa vie. Comment ça fonctionne? C'est quoi la durée d'un implant mammaire? Pour le changement ou pour le retirer, j'imagine qu'il y a plein d'options.
Mais avant, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait changer les prothèses tous les 10 ans.
Okay.
Parce que dans le passé, les prothèses ne duraient pas beaucoup plus longtemps que ça.
Okay.
C'était vraiment les années 80-90. Mais depuis ce temps-là, les prothèses ont changé tellement que ce qu'on fait maintenant, il n'y a vraiment pas de date d'expiration.
Okay.
Chaque 5 ans, on envoie nos patientes pour un IRM. Une résonance magnétique, c'est un scan qui démontre s'il y a une petite fissure ou quelque chose, chaque 3 à 5 ans. Et si on fait ça, on attend un autre 3 à 5 ans, jusqu'au point que un jour, on voit une petite fissure. Puis c'est la seule raison pour changer une prothèse à cause d'une rupture, c'est quand on voit un changement dans l'IRM. Sinon, ça peut durer 20 ans, 30 ans, même plus.
Mais est-ce que c'est recyclable, des prothèses? C'est-à-dire que comme... Donc, lorsqu'on... Voilà.
Oui, c'est ça.
Non, non. That's it. Une fois qu'il y a une petite fuite dans une petite fissure dans une prothèse, il faut changer pour une nouvelle prothèse.
D'accord. Ouais.
Puis de façon concrète, si on a eu une augmentation mammaire, j'imagine qu'il y a un certain étirement de la peau. Si la patiente décide de ne plus en vouloir, est-ce que c'est quand même une chirurgie qui est facile en soi?
Oui.
Oui?
Oui, okay. En termes de technique, puis récupération vraiment facile.
Okay.
La plupart du temps, ce qu'on fait pour insérer la prothèse, c'est de faire une petite incision en dessous dans le pli. Alors, on coupe exactement la même place sur la cicatrice. Puis ça se fait même sous anesthésie locale. On gèle avec une petite piqûre. D'enlever la prothèse, c'est vraiment facile. On met des points fondants. Puis, en termes de l'excès de peau, ça dépend de la grandeur de la prothèse qu'on retire et l'âge de la patiente, puis qualité de leur peau. Une patiente jeune, qui a une bonne peau, le sein va revenir exactement comme il était avant. Mais une patiente plus âgée avec une peau plus mince, des fois, il faut faire un petit redrapage, un lifting pour rapetisser la peau.
Docteur Schwartz, que diriez-vous aux patientes qui sont issues de la communauté noire? Parce que, vous le savez sûrement, on cicatrise très mal. Est-ce qu'il y a une façon de procéder... contrairement à la population caucasienne, afin d'éviter les cicatrices ou les qui vont rester, qui vont marquer le corps?
Je pense qu'on essaie d'éviter des cicatrices plus longues, mais vraiment, si par exemple, il y a un sein qui pend beaucoup puis un mamelon vraiment bas, on n'a pas le choix de faire un lifting pour avoir un beau résultat. Puis les cicatrices sont souvent inévitables.
Voilà.
On peut vous suivre un petit peu plus proche post-opératoire avec des suivis, puis recommander des crèmes pour essayer de gérer les cicatrices ou des lasers, mais ça peut être difficile. C'est pas tout le monde qui guérit bien.
D'accord.
Puis en termes de cicatrices, comme chirurgien plasticien, on essaie toujours d'avoir des cicatrices moins longues,
mais
des fois, c'est inévitable.
Exact, d'accord. Bon, merci.
Mais c'est sûr, je pense juste à ma mère qui a une césarienne, genre longue comme l'univers, puis maintenant, je vois mes amis que c'est des mini...
Exact.
Je vois que la chirurgie avance et s'améliore. J'avais aussi envie de te recevoir, parce que j'imagine que vu que tu es vocale sur le sujet, tu as sûrement des amis qui te posent des questions de comment ça se passe, devrais-tu... Est-ce que tu es rendue comme une espèce de consultante?
Je suis comme rendue la gourou des implants mammaires, malgré moi. Mais je te dirais, Laurie, je répète toujours la même chose. C'est un choix très individuel et très personnel. C'est sûr que moi, pour y avoir eu recours, je vais encourager la chirurgie plastique parce que j'ai toujours été très solidaire envers les autres femmes. Et ce que je souhaite, c'est qu'elles soient heureuses et satisfaites. Donc, si une copine me dit, Varda, est-ce que je dois aller me faire opérer? Je vais être la première à dire oui, puis je vais même t'accompagner s'il faut, tu comprends? Je suis pour l'épanouissement de la femme, moi. J'ai toujours été, j'ai toujours dit, et je le pense vraiment sur mes réseaux sociaux, je le répète constamment, toutes les femmes sont belles. Il y a pas, on a chacun notre identité, nos traits qui sont très personnalisés. Et si, par exemple, toi, Laurie, ton nez ne te plaît pas malgré que tu as un nez hyper mignon. Mais qui suis-je pour te dire non, n'y va pas?
Tout à fait.
T'appartient. Donc, absolument. Allez-y, mesdames, allons-y en gang et puis vive la chirurgie plastique. Là.
Parce que même dans les fictions, dans les films et dans la vraie vie, c'est super fréquent qu'on voit un « Ah, je peux-tu y toucher? Je peux-tu voir comment ça fonctionne? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que les gens te demandent de toucher ta poitrine pour savoir le... »
Oui, mais attends. Alors, mes amis très... C'est sûr que si Mme Côté à l'épicerie me demande, Mme Étienne, j'ai entendu dire que vous avez des implants, est-ce que je peux y toucher? Je fais « Girl, please! » Il y a quand même des limites à ce que je sois accessible aux gens.
Ils veulent quand même toucher nos bébés aussi, ces madames-là.
Non, ça c'est dégueulasse. D'ailleurs, moi, je suis d'accord avec toi. Mais mes amis proches, oui, je leur ai laissé toucher. Oui,
parce qu'on est curieux.
Ben non seulement, on est curieux, puis ces femmes-là, il y en a parmi elles qui ont des conjoints. Et il y a des hommes qui, eux, ne sont pas très à l'aise avec la texture de l'implant, qui préfèrent un sein naturel. Donc, ceux qui ont des conjoints, qui ont des conjoints qui veulent que leur femme ait recours à la chirurgie plastique, je leur dis, ben écoutez, touche, puis tu diras à ton mari comment que c'est. On voit pas ton mari me toucher, tu sais. Alors?
Dans les questions auxquelles j'ai fait face quand j'ai fouillé, on demande souvent si l'allaitement et l'implant mammaire, c'est compatible, mais je crois que ça l'est complètement maintenant.
Oui, depuis le début, c'était toujours. En termes de sécurité, souvent, on met la prothèse en dessous du muscle. Alors, il y a une couche de muscle qui sépare la prothèse de la glande mammaire. Mais même quand on met la prothèse par-dessus le muscle, puis la prothèse est vraiment proche à la glande, ce que le corps fait normalement avec toute augmentation, c'est une fine couche de collagène qui se forme autour. Ça s'appelle la capsule.
Okay.
Elle est souple, elle est extrêmement mince, ce qui sépare la prothèse de la glande mammaire. Alors vraiment, il n'y a pas de contact direct.
Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Exactement, c'est complètement sécuritaire maintenant.
Moi, j'ai allaité après avoir eu ma chirurgie. J'avais du lait pour nourrir tout Sainte-Justine au complet. Là.
Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas eu d'impact.
Non.
Génial. Puis, il y a d'autres questions aussi que j'avais. Là, excusez-le, on jase, on en oublie. Implant mammaire et allaitement. Implant mammaire et mammographie, comment ça se passe? Est-ce que c'est si différent que ça?
Non, ça ne change pas le dépistage de cancer du sein du tout. Ils vont faire, en termes de technique, la mammographie un petit peu différemment. Il faut juste leur dire que vous avez des prothèses. Mm-hmm. Mais c'est la même chose. Ils vont subir leur mammographie comme quelqu'un qui n'a pas des prothèses.
Génial. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu vis facilement? Ça change. Mais j'imagine, en même temps, tu n'as pas de référent. Parce que tu n'as pas eu de trucs médicaux sans tes implants. T'sais, je veux dire, tout ce que tu as fait, que ce soit la mammo, que ce peu importe, tu as toujours eu tes implants.
Oui,
donc, tu
n'as
pas de référente sans les implants.
Exactement, mais tu vois, ma première grossesse, j'avais pas d'implant. Apparemment, j'avais 20 ans lorsque j'ai eu mon premier enfant.
C'est vrai,
donc, mais ensuite, non, tu as raison.
Mais tu vois, c'est ça. Fait que pour toi, c'est pas inconfortable.
Non,
pas
du tout. Non. Et tu sais, je peux vous dire. Je me souviens, la première opération, les deux premières opérations, la récupération s'est faite très, très vite. Mmh. Il y a des amis qui m'ont dit, Varda, tu vas voir, c'est douloureux, puis c'est long. Moi, je me souviens de m'être fait opérer, genre, un jeudi, puis le mardi, j'étais au bon annoté, là. Tu comprends, je veux dire. Mais je dois vous avouer, j'ai beaucoup de difficultés à tolérer la douleur, moi, en général. Mmh. Mais non, ça m'a pas fait mal, moi. Ça a pris vraiment une semaine, je suis retournée travailler, j'étais à Musique Plus une semaine après.
Puis qu'est-ce qui fait qu'on s'est assis les deux ici, puis qu'après 5 minutes, tu étais certaine que tu voulais que ce soit lui qui t'opère pour la prochaine fois? Qu'est-ce que tu as besoin de sentir chez un chirurgien pour avoir envie?
Mais j'ai besoin de références, mais de voir des résultats.
Okay, oui.
Comme j'ai dit, je connais deux personnes en particulier, et les deux femmes se sont fait opérer par Dr. Schwarz pour les implants mammaires. Pardon. Parce qu'il faut préciser un truc, c'est qu'il y a des médecins qui sont très, très, très forts pour les implants mammaires, dos et la rhinoplastie. Mm-hmm. Il faut prendre le temps de bien magasiner son chirurgien. Je m'excuse du terme magasiner. Et voir aussi des résultats. Donc, moi, j'ai vu... Alors, j'ai une copine avec qui je suis devenue amie que je ne connaissais pas avant son opération, opérée par Dr. Schwarz, et le résultat est magnifique. J'en ai une autre qui est elle. J'ai vu le avant-après. Et c'était magnifique. Parce que des chirurgiens, il faut faire attention, c'est quand même son corps, hein, c'est pas banal.
Oui.
Donc, il faut s'assurer que c'est un médecin qui est compétent, qui a une excellente réputation et qu'on a vu les résultats.
Ça se prend bien, ça, j'imagine.
Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup en termes de réputation.
Oui.
Les chirurgiens qui vraiment bouche à oreille. Ça, je considère la partie la plus importante en termes de choix, c'est de connaître plusieurs personnes qui ont subi la chirurgie par ce chirurgien.
Exact.
Puis, ils peuvent vous parler un petit peu de l'expérience, l'équipe, l'entourage, puis les résultats aussi. Mais il y a d'autres façons aussi. On peut aller online puis voir RateMDs, voir sur le site web les avant-après.
Oui.
Alors, il y a plusieurs façons, mais je pense que la meilleure façon, c'est de connaître d'autres personnes qui ont subi leur chirurgie avec le chirurgien.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir raffiné votre art avec les années? Est-ce que vous avez l'impression de devenir de meilleur en meilleur à chaque année?
Oui. Comme tout chirurgien.
Oui.
J'apprends quelque chose toutes les années. L'expérience,
oui.
Value, il y a de
oui.
la valeur. Alors, ça fait une quinzaine d'années que je pratique, puis je ne suis pas le même chirurgien que j'étais ça fait 10 ans. Chaque année, j'apprends des petites choses nouvelles, puis je suis capable d'avoir des plus beaux résultats chaque année, puis éviter des complications aussi. On apprend ça aussi.
Ben oui, parce que on entend parfois parler de complications, j'imagine, mais ça fait partie du
oui.
métier. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours in the back of your head? Est-ce que vous pensez toujours aux patients, à sa situation de santé pour être sûr que tout soit le mieux fait possible? J'imagine que ça doit être toujours dans votre tête.
Oui, c'est pas juste leur santé, parce que si la patiente n'est pas en bonne santé, elle n'est pas bonne candidate pour faire
chirurgie. OK, c'est ça. Vous prenez pas la chance, entre guillemets, là,
oui, exactement.
De la mettre en danger. En fait.
Mais aussi simplement, s'il y a une complication, ça peut affecter le résultat final. On fait tout ce qu'on peut vraiment pour éviter ces complications parce que finalement, ça peut affecter l'apparence du sein, par exemple.
Mais Doc, moi, je peux me permettre une question. Parce que moi, c'est... Alors, lorsque je me suis fait opérer, il y a une vingtaine d'années, on demandait à la patiente de ne pas fumer. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Même plus. Mmh. Pour moi, toutes mes patientes, il faut qu'ils arrêtent pour une période d'au moins 8 semaines. 4 semaines avant, 4 semaines après. Parce que ça affecte vraiment, vraiment la guérison. Par exemple, si on fait une augmentation mammaire avec un lifting ou juste une réduction mammaire, puis la patiente fume avant ou après, on peut perdre le mamelon. Okay? On appelle ça une nécrose où le mamelon devient noir.
On a eu mal partout, là.
Ça tombe, puis il n'y a pas de mamelon, c'est un désastre.
Oui, je dirais ça, oui.
Ça arrive presque seulement dans les fumeuses. Alors, pour moi, si vous arrêtez pas de fumer au moins 4 semaines avant, mais même pas une cigarette, puis 4 semaines après, il n'y a pas de chirurgie.
Voilà.
Je pensais pas que je m'évanouis. Tout va bien.
Ah, puis le mamelon qui marche, mais on va pas trop.
Non, je suis vraiment strict par rapport à la fumée.
Et qu'est-ce qui fait que tu as eu des agents de comblement, une augmentation mammaire, mais souvent les gens disent, quand tu mets un pied là-dedans, tu vas faire tout ce qui te... Il y a toujours quelque chose qui va clocher. Oui. Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça a été quand même ciblé, je dirais?
Mais parce que c'est ce qui me dérangeait le plus.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr qu'avec le temps, avec l'âge, j'ai perdu de la fermeté de ma peau. Mais encore une fois, je m'accepte. Mais mes 3 grossesses, moi, j'ai longtemps pensé à me faire opérer, avoir l'abdominoplastie.
Mm-hmm.
Puis j'ai peur de la douleur. J'ai des copines qui sont parties en Colombie et en République dominicaine. Il y en a pour lesquelles ça a très bien fonctionné. D'autres, il y a eu des complications. Moi, je ne conseille pas aux gens d'aller à l'extérieur, même si c'est moins cher, parce que, de un, moi, je ne parle pas l'espagnol. De un, je parle anglais et français, donc je veux être avec un médecin pour être sûr qu'on parle la même langue et de pouvoir lui faire part de mes inquiétudes et puis tout ça. Et puis de faire affaire, je veux dire, dans un médecin, où est-ce que... Ici, on est au Canada.
Mais oui, complètement.
Il y a une complication, il y a un hôpital.
Oui.
Moi, en République dominicaine, allô? En Turquie, non merci. Moi, ça me fait peur. Je ne comprends pas. Je respecte tout le monde. Mais faites-vous opérer ici par des médecins compétents. Ici, il y en a des excellents médecins. D'ailleurs, je veux dire, ceux qui connaissent la chirurgie esthétique vous diront que le Canada, au Québec, parce qu'il y a l'Université McGill, je ne sais pas si c'est là que vous avez fait votre médecine, Dr. Schwartz. Mais...
Non, j'ai fait toutes mes études aux États-Unis.
D'accord.
Mais... J'ai enseigné à McGill.
Alors voilà, ah,
ben,
tant mieux.
Ben voilà.
Alors voilà, parce que McGill est réputée pour être une université qui forme d'excellents chirurgiens plasticiens. Raison de plus de ne pas quitter. Donc oui, alors pour répondre à ta question, oui, si c'était de moi, je ferais plein d'autres affaires, tu sais.
Mais tu te retiens quand même.
Oui, parce qu'à un moment donné, je veux dire, faut pas virer, comme on dit, une expression québécoise, faut pas virer sur le top. Puis tu sais, je suis quand même très, très à l'aise avec mon apparence.
Oui, tout à fait.
Tu comprends? Je suis bien dans ma peau, je me trouve belle, ça. Puis tu sais, la beauté, c'est pas seulement le physique, c'est aussi comment tu te sens dans ta peau. Moi, je suis une femme heureuse, épanouie, j'aime ma carrière, mes enfants vont bien, tu sais, mes parents sont vivants, tu sais, I've got a great life. Mais un petit peu de chirurgie, j'aille pas ça non plus, tu sais.
Ça va être le mot de la fin, ça, un petit peu de chirurgie, j'aille pas ça de temps en temps. Merci à vous deux, ça a été vraiment très instructif.
Plaisir.
Merci.